Le fœtus est dans un autre monde. Nous étions dans un autre monde. De quelle nature? Nous tous, ou plutôt chacun de nous. Se penser d'après ce que nous avons été. Comment renouer avec un tel endroit? Peut-être déjà en acceptant l'idée de cette ancienne présence.
Alors, quels sont les axes de l'étude prénatale? Arrivons au cœur du sujet maintenant. L'étude du fœtus humain et de la vie prénatale doit tenir compte d'éléments spécifiques qui sont les caractères généraux de la vie intra-utérine des mammifères placentaires, les capacités sensorielles du fœtus humain et son importante plasticité cérébrale. Voilà les grands axes que nous allons suivre. La vie intra-utérine. Alors, qu'est-ce que c'est que les mammifères placentaires? On va aller vite. Alors, une petite remarque en passage, quand même, un peu insidieuse. Alors que le terme de mammifère évoque les mamelles et la vie postnatale, le qualificatif placentaire passe sous silence la nature de la vie prénatale. Placentaire ne caractérise pas l'entièreté de la vie prénatale. Or, moyennant le placenta et la nature particulière et unique du milieu utérin, des mammifères placentaires, je ne parle pas que de l'homme. Tous les caractères de la vie sont ici réunis. Et là, je fais une pause. La vie mammifère placentaire, ce que j'appelle l'invention mammifère, c'est qu'au lieu que la vie aille traîner dans les ruisseaux comme celle du tétard, voyez-vous, exposée à être dévorée au courant, etc., ou celle de l'œuf exposée au coucou, etc., notre vie se développe dans un milieu particulièrement protégé, dans les conditions générales d'une grossesse. Toutes les conditions de la vie sont, en principe, je dis en principe par précaution, mais en fait, réunies. Sur le plan de la grossesse physiologique normale, il ne connaît ni la différence ni le besoin. Il est donc dans la totalité vitale. Et là, je prononce un mot qui est un mot extrêmement dangereux, puisque le mot totalité a été servi à toutes les sauces et au pire, hein, qu'il peut être confondu avec totalisation et avec totalitaire, etc., y compris avec la totalité mystique et tout ça, ou métaphysique. Mais je n'ai pas trouvé, pendant des années durant, d'autres termes acceptables que le mot totalité. Donc j'ajoute cette note. Ce terme de totalité prête à confusion, c'est vrai, et on a le droit de le critiquer. Mais il doit être compris ici, en dehors de toute référence métaphysique ou idéologique, selon un sens neurobiologique strict. Alors, la vie utérine en général, eh bien, les aptitudes sensorielles des mammifères placentaires apparaissent plus ou moins tôt pendant la vie fœtale, mais cette sensibilité ne semble pas déboucher, je viens de le signaler, sur des acquisitions prénatales particulières. Et tout se passe comme si l'animal traverse l'homogénéité prénatale sans retentissement apparent sur son programme génétique. D'où l'idée que l'animal demeure selon sa nature innée. Maintenant, nous allons passer à l'homme. Chez l'homme, il en va tout autrement. Le fœtus humain ressent précocement, les animaux aussi, mais nous, très précocement, on va y revenir. Il garde la mémoire de ce qu'il ressent dans le cadre de l'homogénéité prévalente, on va aussi y revenir. Il est restructuré par l'intégration de l'univers son vécu prénatal. En ce moment, on va y revenir, mais là, on va déjà, on annonce de manière un peu prématurée les conclusions. Alors, la précocité sensorielle du fœtus humain. Réfléchissons-y une seconde. Bon, à 12 semaines, le tact, l'équilibration, le goût, l'olfaction sont potentiellement fonctionnels chez le fœtus humain. À 20 semaines, c'est l'audition et c'est la vision. Bien. Quelles sont les fonctions de la sensibilité précoce fœtale humaine? Toute la question est de savoir sur quoi débouchent ces aptitudes à ressentir. Est-ce que le fœtus dans son monde est apte en même temps, de par ses capacités sensorielles, à percevoir ce qui est en dehors de son monde? Ou bien l'immersion dans l'homogénéité vitale constitue-t-elle un monde à part et quasi exclusif? Eh bien, ce qu'il faut nécessairement concevoir, c'est que La constance de ce milieu et son adaptation parfaite à la vie et aux besoins du fœtus fait que cela constitue ce que j'appelle, avec ce petit rond là, voile de voile blanc, la barrière fœtale. Il n'y a pas que la barrière fœtoplacentaire contre les infections, etc. Il y a aussi du fait de l'immersion dans ce milieu convenant, pas seulement contenant, mais convenant, parfaitement convenant, n'est-ce pas ? Il y a du fait de cette immersion, il y a le fait que l'homogénéité vitale générale et constante crée un halo de ressenti continu qui normalement prime sur les stimuli externes. Si vous voulez un stimuli externe pour se faire entendre, il faut qu'il arrive à traverser la barrière fœtale, c'est-à-dire la barrière de convenance de vie dans laquelle me semble se trouver le fœtus. Le fœtus est en deçà de la relation d'objet et s'il reste au-dessous du seuil traumatique, les incidences externes se dissolvent dans l'ensemble vital. Par contre, au-dessus de ce seuil, elles peuvent en effet compromettre l'homogénéité du milieu vital utérin. Alors, l'illusion de la perméabilité fœtale, par ses réactions réflexes aux sollicitations ou interventions extérieures, le fœtus donne l'illusion de nous répondre. Mais le fœtus ne se tourne pas de lui-même vers l'extérieur qu'il ignore. Tout au plus, des interventions externes adéquates, type massage ou haptonomie, peuvent avoir un effet de soutien, mais de là à aller dire que les interventions extérieures modifient le fœtus, il y a peut-être une marge à franchir avec beaucoup de précautions. Alors, tout cela, qu'est-ce que ça va donner, l'intégration de la vie corticale ? On va retourner à la question déterminante. Quoi qu'il en soit des dépassements éventuels du seuil de la barrière fœtale, on arrive à une synthèse, et des effets réflexes provoqués directement ou indirectement par des stimuli externes, la question fondamentale et générale reste celle du vécu prénatal de base. Voilà notre notion de base maintenant, le vécu prénatal. Quel est le sens humain ? Alors, une objection. Au niveau de ce vécu, l'homme ne semble pas se différencier des mammifères placentaires, n'est-ce pas ? Qui aussi ont des sensibilités précoces et ce milieu utérin. Donc à ce niveau, on est nul. Là, jusqu'ici, je suis nul. Hein ? Je dis des choses banales qui n'ont pas d'incidence sur l'homme tant que je mets bout à bout la vie prénatale dans sa totalité et les sensibilités précoces. Mais l'intérêt de la question humaine tient au fait que l'homme a les moyens corticaux de mémoriser le vécu de totalité ambiante prénatale. Voilà la différence, à mon sens, et la ligne de départage entre l'animal et l'homme. Il a les moyens corticaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fœtus a un tiers du cortex pour enregistrer l'homogénéité de la vie fœtale. Il a une disponibilité corticale. Et celle-là correspond à ce qui a été appelé depuis le 19e siècle les aires associatives. Qu'est-ce que c'est que les aires associatives ? C'est du tissu neural et en général cortical en plus, qui n'est pas destiné dans son développement à être le siège d'une fonction précise. On a des neurones en plus, savoir ce que ça va devenir. Alors ça peut être très utile pour une récupération après une pathologie, mais sans aller jusque-là, à quoi ça sert in utero ces neurones qui sont là et qui ne vont pas attendre la date de livraison à l'accouchement de l'enfant pour se mettre à agir, pour se mettre à synapser, pour se mettre à créer des circuits neuronaux. Alors, il y a quelque chose d'absolument effarant pour moi. Malgré leur maturation précoce de ces aires associatives, comme l'ensemble du cortex, il est étonnant que l'on accorde généralement à ces zones neurales aucun rôle associatif pendant la vie prénatale. Elles sont lettres mortes. Je me demande même, entre nous soit dit, s'il n'y a pas là comme une dévalorisation de la caractérisation féminine, puisque là, elle a un effet qui dépasse tout commentaire. Cet a priori, donc, que ça ne sert à rien, est contestable. Cet assemblage n'est peut-être pas un bricolage. Ou du moins, il bricole quelque chose de très particulier qui va prendre sens et qui serait une structure susceptible d'être la représentation et en même temps, disons, la modélisation de la vie dans laquelle nous aurions plongé in utero. Ainsi, l'homme a ou aurait la matière et les moyens d'enregistrer ou d'engrammer ou d'intégrer, le mot que vous voudrez, l'homogénéité vitale prénatale.
Il y a donc une invention mammifère, quelque chose qui s'est développé sans précédent. Des conditions préalables de développement dans un placenta, laboratoire du vivant protégé. Mais ce qui se développe chez l'animal ne se retrouve pas dans l'humain. Pourquoi un système fonctionnel déjà en place dès les premières semaines ne serait-il pas aussitôt opérant, plutôt qu'en attente, en réception dans ce monde unique et exclusif de l'homogénéité vitale du placenta. Tout s'y prête, la constance du milieu, son adaptation parfaite aux besoins du fœtus. Y aurait-il, en ce milieu propice, un vécu prénatal de base propre à l'humain? Un humain doté de capacités corticales spécifiques dont on ne discernait pas l'utilité avant que Jean-Marie Delassus, psychiatre, chef du service de matérmologie de Saint-Cyr-l'École, ne se penche sur cette réalité.
Ce qui s'est passé in utero, c'est pas une histoire de paradis perdu, etc. On n'est pas dans ce domaine idéologique. Il se serait passé quelque chose qui fait que nous aurions été, à la différence des animaux, capable d'enregistrer le milieu de vie dans lequel se développe notre vie prénatale. Cette intégration correspondrait donc à l'émergence d'une néostructure corticale. Cette néostructure se superposerait au programme génétique. Elle ne les chasse pas, elle ne les élimine pas, elle se superpose. Reste à savoir la hiérarchie qu'il y a, je suis incapable de répondre à cette question. Elle les réorganiserait en tout cas selon une forme inédite de l'être, le mot être perdant son sens philosophique classique, prenant un sens là neurontobiologique, correspondant au vécu de la totalité prénatale. Cette néoformation spécifique peut être identifiée, il faut nommer, en tant que structure neurontologique. Alors, les données sensitives multimodales et homogènes émanant du milieu ambiant et du ressenti corporel activent la structure neurontologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est perçu par les différentes voies sensorielles ou sensitives du fœtus dit la même chose. Elle ne dit pas l'odorat, le goût, etc. Ce n'est pas encore distingué. C'est toujours ce qui est nécessaire et qui correspond au vécu de ce petit être. Donc, de tous les côtés arrivent des informations par des canaux divers, on va dire des colorations diverses, si vous voulez prendre une image, n'est-ce pas, qui aboutissent au même message, et ces différentes voies sensorielles aboutissent à quoi? Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Ces stimuli peuvent se décharger dans les centres visuels parce que n'ont rien à voir, dans tous les sens du terme apparemment, pendant la vie intra-utérine, ils ne peuvent pas voir la totalité fœtale. Et personne ne peut la voir. Et là, c'est là que ça devient passionnant. Et je continue. L'œil commence par être une fonction de l'invisible, je vais vous dire comment. Ainsi se développerait chez le fœtus un réel intérieur, je dis bien réel au sens lacanien, correspondant à la vie prénatale et constituant un milieu de mental d'origine. Plaçons l'œil là. Il a rien à voir devant lui. L'audition à entendre, le goût à entendre, le tac à entendre, l'olfaction, tout ça ont quelque chose à ressentir. L'œil, rien. Il est vacant. Il est fonctionnel et il est vacant. Alors, imaginez les afférences synesthésiques. Dieu sait si elles sont nombreuses. Tout le corps est vibrant de cette vie-là. Imaginez les afférences sensorielles. Tout le corps est sentant par ses différents sens. Tout cela dit la même chose sans mots, sans aucune matérialité. Cela, qu'est-ce que ça fait? Ça aboutirait à créer cette structure neurontologique extrêmement centrale, laquelle se décharge, au sens freudien du terme, décharge des hyperstimulations, se décharge dans l'œil, mais de manière postérieure, c'est-à-dire c'est pas ce que l'œil voit, c'est ce qui vient à l'œil voit, quelque chose qui ne se voit pas. Et nous ne sommes pas dans l'hallucination, nous sommes dans ce que j'appelle, avec d'autres, la vision intérieure. C'est-à-dire, je ferme les yeux pour voir. Et qu'est-ce que je vois? Ce qui ne peut pas être vu, et ce qui ne peut pas être vu est l'essence même du voir. Et l'homme est peut-être le lieu de rencontre de deux structurations de la vision qui s'opposent ou ne s'opposent pas, ou bien l'histoire de l'homme serait la lutte pour que l'une des deux visions l'emporte sur l'autre et que le monde intérieur soit totalement détruit au profit d'un monde extérieur informationnel qui nous transformerait en acteurs passifs, si j'ose dire, des structures que nous aurions mises au monde.
Imaginez le développement chez le fœtus d'un réel intérieur, nourri par l'œil qui n'a aucune autre chose à voir. Un œil considéré presque comme inutile, en attente, fonctionnel mais vacant. Une situation pour voir ce qui ne se voit pas, ou ce qui ne peut se voir autrement que dans une telle situation, dans un tel milieu. La vision intérieure. L'histoire humaine deviendrait une lutte entre ce monde intérieur et le monde extérieur. Intervention de Baudouin Decharneux, spécialiste des polythéismes antiques et de l'histoire du christianisme, présent lors de ces rencontres de Bruxelles, enregistrées en septembre 2005.
Il y a un point qui, du point de vue épistémologique, m'embarrasse. En fait, si je suis bien inquiet de votre exposé, bon, vous donnez donc le primat à cette vie intra-utérine.
Un primat d'origine.
Un primat d'origine.
Pas plus, hein.
Bien sûr, vous êtes d'accord avec l'idée que c'est des chocs extérieurs très violents, des choses pareilles, il en ressent quelque chose.
C'est évident.
Mais vous dites, c'est ce contexte premier qui est central. Mais ce contexte premier, sauf, comme vous l'avez dit, dans le cas de pathologie, est un fond constitutif de l'humanité. Hein, nous sommes tous passés par ce stade premier. Or, ce que nous sommes en train de chercher ici, c'est précisément en matière d'individuation, c'est-à-dire après la naissance, quelle sera l'incidence de cet état premier sur nous. Or, les hommes, même s'ils exagèrent peut-être leurs différences, ne sont quand même pas tous semblables.
Oui.
Donc, quel est l'intérêt du modèle au niveau de l'individuation, puisque cette base première est très surdéterminée et commune?
On aboutit à la notion d'une structure anthropologique humaine, et je vais y aboutir pour terminer tout de suite, qui va se diversifier en fonction de la naissance, dont le mot prend tout un sens, distinct de l'accouchement, c'est-à-dire que la relation qui va se faire entre le nouveau-né, à l'instant de... Il n'est pas encore né, le nouveau-né, il est accouché. Entre ce moment-là et l'accueil par sa mère, par son père, par le milieu, par l'ambiance, etc., par un monde qui est un monde, du coup, de la différence, cette différence étant amenuisée, aménagée par le milieu humain dans lequel il entre, mais suivant les caractères de ce milieu et des affects projetés sur lui par les parents, eh bien, la naissance va diversifier la structure. Et cela nous donne, en tout cas, à nous, sur le plan thérapeutique, des instruments d'analyse assez intéressants. On pourrait développer à partir de là. Je vais terminer. Donc, absorbé dans sa vision intérieure, sur fond de ressenti homogène du corps, eh bien, voilà une possibilité d'envisager le bien-être fœtal humain. Et terminons par la spéciation humaine. Spéciation est un terme qui n'est pas souvent employé, mais qui est dans le dictionnaire, qui signifie comment une espèce se forme. Hein. Il y a spécification d'un côté qu'est autre chose, la spéciation est un terme qu'il faut peut-être reprendre. Eh bien... Bien que 99,4% du patrimoine génétique humain soit commun avec celui des grands singes, y compris les chimpanzés, l'homme différerait de l'animal par une réorientation corticale prénatale. Voilà une partie de la thèse ou de l'hypothèse.
Venir au monde modifierait une structure initiale non prise en compte mais fondamentale, propre à chaque être. D'où venons-nous ? Les choses semblent se préciser du coup et échapper au brouillard. Nous différerions et aurions en nous une capacité de réorientation de notre cerveau avant la naissance. D'où venons-nous deviendrait dès lors qu'avions-nous en nous avant. Jean-Marie Delassus.
Le réel intérieur n'est pas un phénomène subjectif. Je me souviens d'une phrase dans Malraux, dans Les Conquérants, je crois, où un très beau paragraphe sur la question de réel. Il dit « Le réel, nous y croyons pas, pensons que c'est subjectif. » Ben non, le réel intérieur n'est pas un phénomène subjectif. Mais un donné objectif caractéristique de l'homme. Arrêtons de nous laisser emprisonner, voire aliéner par la réalité. Nous avons notre réel. L'homme a son propre monde, le réel intérieur, ce caractère anthropologique de base et, avec la structure neurontologique, un des facteurs de la spéciation constitutive de l'origine humaine. Mais alors, je reprends les propos de M. de Charnay maintenant. Alors, l'homme arriverait donc au monde avec un autre monde distinct du monde extérieur, auquel il est génétiquement programmé, mais auquel il n'est plus spontanément adapté, d'où cette idée de la prématuration, etc. Bon, si l'accouchement correspond à la venue physique au monde, la naissance devra être le processus psychique susceptible de coordonner. Et vous, comme la naissance est loin de l'accouchement, qui décordonne, si j'ose dire, en faisant un jeu de mots sur le cordon, elle est décordonnante, mais il faut répondre à cette décoordination de l'accouchement par la recoordination entre le réel intérieur et tout d'un coup la réalité désormais extérieure et omniprésente. Cette coordination, remise de cordon psychique si vous voulez, est le processus de la naissance, est absolument indispensable pour que soit viable cet être qui autrement n'en a plus rien à faire de la réalité du monde. C'est pas un être qui mange de l'herbe et grimpe aux arbres ou va chercher la mamelle de la mère comme ça. C'est un être qui a à vivre ce qu'en tant que structure il serait, je mets toujours conditionnel, devenu. Alors, la venue au monde devient pour l'homme une épreuve considérable de rupture. On retrouve la notion de rampe, mais d'une autre manière, du traumatisme de la naissance. Elle doit être distinguée de l'accouchement, bien qu'aléatoire, aléatoire, voyez-vous, je vais dans votre sens, une naissance psychique doit commencer à partir de l'accouchement. Et alors, cette naissance psychique aléatoire, elle a quatre caractères fondamentaux, peut-on dire, elle se fait dans les délais de plasticité cérébrale maximale, c'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre pour soigner les petits bébés parce qu'on a 9 mois pour les guérir à tout coup, je dirais, des questions de la naissance psychique, 9 mois, mais après 9 mois, ça s'est bien engrammé et c'est résistant, le mortier a pris. Elle implique la connexion au monde de la structure mentale prénatale et tout va dépendre des modes de connexion, du milieu connecteur, des parents qui vont assurer la fonction parentale prend une dimension extraordinaire. C'est plus j'élève mon enfant, comment j'élève mon enfant, c'est comment j'assure sa connexion avec le monde. C'est-à-dire que la maman qui vient d'accoucher a une deuxième naissance à effectuer. C'est assez extraordinaire. Dans un délai de 9 mois. Elle assure donc la permanence de l'origine comme structure de l'existence humaine, mais pour ne pas alourdir le texte, je n'ai pas dit ce que je vais vous dire oralement, selon des modalités qui sont saines du milieu et qui vont nous différencier à partir d'une structure commune de base, ou qui viendrait nous différencier. Elle constitue, il faut ajouter ça, cette structure, la base de la résilience. On a beaucoup parlé de la résilience, on a peu parlé de sa raison d'être, je pense qu'on pourrait peut-être la trouver par là. Une chose importante, qui n'est pas directement dans notre propos, mais qui est capitale à introduire en clinique et dans les services de maternité, quand le fœtus arrive au monde, il ouvre les yeux en attente de la poursuite de son réel intérieur. Il arrive au monde, c'est quoi ça ? N'est-ce pas ? Bon. Il crie. On est les seuls animaux à crier à la naissance, faut pas oublier. Pourquoi on crie ? Il y a de quoi crier dans cette différence. La différence natale fait crier. Bon. Et après, il se tait, il ouvre les yeux. Et à ce moment-là, il va y avoir un moment unique dans la vie, qui est bien sûr le fait que les yeux sont tout d'un coup visibles dans une intensité extraordinaire et bouleversante, mais sur le plan somatique, le fœtus va avoir à ce moment-là 20 000 fois plus de production de catécholamine, en somme l'hormone du stress, que de l'être humain dans les pires moments de son existence. C'est-à-dire qu'il y a une décharge de catécholamine invraisemblable et inimaginable. Il est dans un stress, le stress natal, le voilà, on l'a sous la main. Et ça se traduit en quoi ? En ce regard ouvert que jette l'enfant si on ne lui met pas, on colle pas le nez directement en pot à pot. Le pot à pot est important, à condition que le pot à pot sauve la tête et qu'on ne décapite pas un nouveau-né dans le pot à pot. N'est-ce pas ? Il faut lui sauver la tête pour qu'il puisse regarder. Et il lève des yeux, et dans l'état où nous sommes en maternologie, en clinique maternologique, nous croyons savoir maintenant l'explication de cette phrase des femmes si souvent entendue et que nous ne comprenions pas. Je voudrais refaire mon accouchement, j'ai raté mon accouchement. Maintenant qu'on a un petit peu envisagé cette hypothèse, nous comprenons, nous pensons comprendre que ça veut dire j'ai pas reçu ses yeux en pleine figure à la naissance, n'est-ce pas ? Et donc, j'ai pas eu la mise en branle de mon émotion maternelle, de ma fibre maternelle. Et une parenthèse, un papa me disait... Il y a quelque temps, ma femme a été rapidement en réanimation, on m'a collé le bébé dans les bras et dans un linge, dans le couloir, il a levé les yeux vers moi, et je me suis juré sur le moment, et je vous le dis comme ça, m'a-t-il dit, je me suis juré de changer de vie, de ne plus être le même homme. Donc voilà un exemple de proto-regard. Je l'ai dit, je ne vais pas prendre davantage de temps là-dessus. Le proto-regard issu du vécu de l'origine utérine est le déclencheur de la naissance psychique, j'entends par là, de l'enfant et de ses parents. Il a un effet de parentalisation. Et on ne peut pas, à mon sens, laisser ça de côté, passer son temps à s'interroger sur la coupure du cordon sans penser à recoordonner ce qu'on a coupé en le recoordonnant sur le plan psychique. Alors, les trois temps de l'humanisation, le premier serait l'origine prénatale, qui tient à la nature de l'épigenèse qui produit la structure neurontologique de la totalité. Le deuxième temps, la naissance psychique, dépend du rapport à la présentation maternelle de l'origine, à l'enfant, ce qui permet notamment le transfert de la vision intérieure à la vision extérieure symbolique. Pourquoi tu as de beaux yeux ? Pourquoi tu existes ? La refonte, donc aussi, de l'épigénèse corticale de l'épigénèse prénatale, qui va restructurer les fonctions corticales, intégrer les fonctions issues des aires associatives, retravailler comme ça, et permettre que ce qu'on a cru de la prématuration se transforme en une récupération des capacités motrices. Et la formation de l'inconscient, qu'il ne faut pas oublier. Parce que le troisième temps, c'est le fait que le réel de l'origine, celui qu'on ne peut pas voir et qu'on voit de la vision intérieure, passe sous la barre de la conscience à la naissance, laquelle conscience est liée à la réalité extérieure, et devient l'inconscient fondamental, traditionnellement évoqué par la notion d'âme, je dis traditionnellement, avec toutes les précautions que ça impose, lequel inconscient fondamental n'est peut-être pas nécessairement représenté entièrement par l'inconscient freudien, et peut-être plus évoqué par l'inconscient jungien, je ne me prononce pas, mais j'indique qu'il y a là des voies de réflexion parce que la notion d'inconscient fondamental me semble le troisième temps de l'humanisation. Ce que nous avons vécu, cette totalité prénatale, n'est pas concevable.
Trois temps de l'hominisation, un temps prénatal, un temps de la naissance psychique. Dernier temps, la perpétuation dans la mémoire de ce monde intérieur, un inconscient fondamental appartenant à chacun. C'était l'origine de chaque être humain, une conférence donnée par Jean-Marie Delassus, psychiatre, chef du service de matermologie à Saint-Cyr-l'École. Une réalisation d'Andici.
Histoire vivante, proposée par Irène Chalon et Jean Leclerc, avec aujourd'hui la collaboration de Nathalie Schoenberg, Corinne Rochat, Daniel Zacker et Andici. Vous pouvez nous écrire ou retrouver nos émissions sur notre site internet rsr.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Histoire vivante est en nouvelle diffusion à 18h sur Espace 2. Vous écoutez La Première, il est 16h.